Bonjour, vous êtes bien installé? Prenez votre temps, c'est votre moment. Le calme vous entoure, votre respiration s'apaise, vous êtes prêt. Vous saisissez ce livre qui n'attend que vous. Au creux de vos mains, il se réchauffe, se réveille et commence doucement à pénétrer votre esprit. Le livre en vie, c'est l'occasion de partager avec vous mes expériences singulières, mes rencontres avec ces livres dont on ressort toujours un peu plus vivant, quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Aujourd'hui, un livre que j'affectionne tout particulièrement, « Impasse des deux palais », un roman de l'auteur égyptien Naguib Mahfouz, paru en 1956. C'est le premier volume de la trilogie du Caire. Naguib Mahfouz est le premier écrivain de langue arabe à avoir reçu en 88 le prix Nobel de littérature. C'est dans les rues du Caire que Naguib Mahfouz, le Zola du Nil, promène son miroir et capte toutes les facettes d'une société égyptienne en pleine évolution, une véritable plongée au cœur du Caire ancien. L'intrigue, les personnages hauts en couleur et si réalistes, le décor qui sent bon les épices et où, avec un peu d'imagination, on pourrait presque entendre les foules qui se rassemblent dans les souks, tout l'univers du récit vous embarque. Les sensations sont multiples et infinies. L'histoire commence en 1904 avec un commerce. On y voit un homme corpulent, vêtu de sa galabier et coiffé de son tarbouche. Il s'agit du pion maître de l'histoire, Monsieur Ahmed Abd El Gawad, patron du dit commerce, homme qui inspire le respect et la terreur au sein de sa propre demeure. Sur le coup de minuit, elle se réveilla, comme à son habitude, à cette heure de la nuit, sans le secours d'un réveil quelconque, mais poussée par un besoin tenace qui s'obstinait à lui faire ouvrir les yeux avec une ponctualité sans faille. Un instant, elle resta à la frange des choses, livrée à la mêlée des fantasmes et des picotements de la perception consciente, jusqu'à ce que, au moment d'ouvrir les paupières, dans sa crainte que le sommeil ne l'eût trompée, l'angoisse l'étreigne. Elle secoua légèrement la tête et ouvrit les yeux sur l'obscurité dense de la pièce. Pas le moindre indice pour lui permettre de se faire une idée de l'heure présente. En bas, la rue ne s'endormait pas avant les premières lueurs de l'aube. Les bribes du bavardage nocturne des cafés, comme les voix des boutiquiers qui lui parvenaient au tout début de la nuit, se confondaient avec celles encore perceptibles à minuit et de là jusqu'à l'aurore. Dès lors, nul repère auquel se fier hors l'intuition intime, sorte d'horloge consciente, et le silence qui enveloppait la maison, témoignant que son mari n'avait pas encore frappé la porte, ni heurté les marches de l'escalier du bout de sa canne. C'était l'habitude qu'il avait tirée du sommeil à cette heure, une vieille habitude, héritée de la prime jeunesse, et qui la possédait encore à l'âge adulte, qu'elle avait faite sienne au même titre qu'un certain nombre de règles de la maison et de la vie conjugale, et qui voulait qu'elle fût sur pied au beau milieu de la nuit pour attendre son mari au retour de ses sorties nocturnes et le servir avant qu'il s'endorme. D'un coup, elle se redressa sur son lit afin de couper court à la douce séduction du sommeil et, invoquant le Seigneur et sa miséricorde, se glissa de dessous la couverture sur le sol de la chambre. Marchant à tâtons, en se guidant sur la colonne du lit et le battant de la fenêtre, elle atteignit la porte et l'ouvrit, laissant entrer un faible rayon de lumière qui s'échappait de la lampe posée sur la console du vestibule. Elle s'en approcha timidement, s'en saisit, et la ramena dans la chambre où le col du verre projeta au plafond un cercle tremblotant de lumière diaphane cernée d'obscurité. Elle la posa sur une table basse, en face du divan. À cet instant, la pièce s'éclaira avec son vaste plancher carré, ses hauts murs et son plafond strié de poutres parallèles, sans compter l'air cossu que lui donnaient les tapis de Shiraz, le lit spacieux encadré de quatre colonnes de cuivre, l'armoire massive et le large divan que recouvrait un petit tapis quadrillé aux motifs et aux teintes variées. Elle se dirigea vers le miroir, y jeta un regard et voyant que son voile de tête brun, tout fripé et glissant vers l'arrière, lui découvrait le front encombré de mèches châtaines, elle en saisit le nœud du bout des doigts, le dénoua et rajusta le voile sur sa tête en en rattachant soigneusement les deux extrémités d'un geste mesuré. Puis, des paumes, elle se frotta les côtés du visage comme pour en effacer les dernières traces du sommeil. C'était une femme d'une quarantaine d'années, de taille moyenne, menue au premier abord, mais cachant sous une peau fine un corps aux formes rondes et pleines, inscrit dans les limites étroites d'une silhouette harmonieuse. Elle avait le visage oblong, surmonté d'un front haut, des traits fins, De beaux petits yeux couleur de miel au regard rêveur, un petit nez fin, légèrement galbé, aux narines et aux bouches, aux lèvres minces, d'où s'amorçait la courbe d'un menton effilé. Sur son teint doré et éclatant se détachait à la hauteur de la pommette un grain de beauté, d'un pur noix de jais. Elle sembla, en se drapant dans son voile, céder à la précipitation et, se dirigeant vers la porte du moucharabier, pénétra dans la cage fermée où elle s'attarda, promenant son regard de droite à gauche à travers les fins ajourements des vantaux en direction de la rue. Le moucharabier donnait sur la rue de Bain al-Kassarin et surplombait l'intersection de la rue du même nom qui montait vers le nord avec la rue d'Al-Alassim, qui plongeait vers le sud. À gauche, la voie apparaissait étroite, sinueuse, tapie dans l'ombre épaisse des étages supérieurs où s'alignaient les fenêtres des demeures endormies et celles plus diffuses des rez-de-chaussée, profitant de la lumière des lanternes des voitures à bras, des enseignes des cafés ou d'une poignée de boutiques faisant nocturne jusqu'à la pointe de l'aube. À droite, elle s'engouffrait dans une zone obscure, désertée par les cafés au profit des grands magasins fermant tôt leurs portes. Rien, sur cette toile de fond, n'accrochait le regard hors les minarets des collèges de Kawaloun et de Barak, fiers comme des silhouettes de géants montant la garde sous la voûte étoilée. Un tableau qui avait captivé ses yeux un quart de siècle durant, sans jamais la lasser. Du reste, peut-être avait-elle ignoré la lassitude tout au long de sa vie pourtant monotone. Au contraire, elle avait découvert dans ce spectacle un compagnon de solitude et l'ami dont elle s'était trouvée quasiment privée pendant une longue période de sa vie. C'était avant la naissance de ses enfants, à l'époque où cette grande maison à la cour poussiéreuse avec son puits profond, ses étages et ses pièces immenses au plafond démesuré n'abritait qu'elle, en tout et pour tout, la majeure partie du jour et de la nuit. À l'époque de son mariage, c'était une toute autre fille, une toute jeune fille, à peine âgée de 14 ans. Mais, à la suite de la mort de ses beaux-parents, elle s'était vite retrouvée seule à la tête de cette grande demeure, aidée alors uniquement dans sa tâche par une femme âgée qui l'a quittée à la tombée de la nuit pour aller dormir dans le réduit du four à pain, à l'autre bout de la cour. L'abandonnant au monde des ténèbres peuplées d'esprits et de spectres, tantôt s'assoupissant, tantôt cherchant le sommeil, jusqu'à ce que revienne son vénérable mari de ses interminables sorties. Pour se rassurer, elle avait pris l'habitude de faire un tour complet des pièces en compagnie de sa servante, brandissant la lampe devant elle, inspectant les coins et les recoins d'un œil scrutateur et craintif. Puis, elle fermait soigneusement les portes, les unes après les autres, partant du rez-de-chaussée et terminant par le haut, tout en récitant ce qu'elle savait du Coran pour repousser les démons. Après quoi, elle se retirait dans sa chambre, fermait la porte et se glissait dans son lit, tout en continuant sa récitation tant que le sommeil n'en était pas venu à bout. La voiture s'ébranla en direction de la rue Bain al-Kassarin, tandis que Ahmed Abdel al-Gawad gagnait la porte d'entrée. Pendant ce temps, sa femme quittait le moucharabier pour la chambre, attrapait la lampe et prenait le chemin du vestibule qu'elle traversa jusqu'à la loggia pour s'arrêter en haut de l'escalier. Elle entendit la porte de la rue claquer, le verrou coulisser, et elle imagina son mari traversant la cour avec sa haute stature, reprenant sa noblesse et sa gravité, mettant de côté ce ton badin qu'elle aurait pensé être la dernière des choses possibles si elle n'avait pas prêté l'oreille. Puis elle entendit le son de la canne sur les marches et tendit la lumière par-dessus la rampe afin d'éclairer ses pas. Quand elle l'eut rejointe en haut de l'escalier, elle le précéda en élevant la lampe et il la suivit. « Bonsoir, Amina » chuchota-t-il. Elle lui rendit son salut d'une voix effacée, dénotant la politesse et la soumission. « Bonsoir, Seigneur !» Le livre en vie s'est terminé pour aujourd'hui. Merci Yanis pour ton aide précieuse. La semaine prochaine, je vous ferai découvrir le très beau roman de Maïlys de Kerangal, Réparer les vivants. À bientôt sur Esprit Occitanie.